Bergson disait que Rousseau est par excellence l'homme que l'on discute sans le connaître. Et je voudrais aussi vous citer une phrase de Gilles Sand de l'Académie française, qui disait que de livres qui ne sont que des commentaires sur un contresens. Vous vous rappelez peut-être qu'à propos de Pascal, j'ai fait mon autocritique et que je vous ai parfaitement déclaré que autrefois je n'avais pas accordé l'importance qu'il faut accorder au provincial. J'ai pas d'autocritique à faire au sujet de Jacques Rousseau. Et même, enfin, si vous suivez le fier et le malin, il faut dire que je suis bien content de ce que j'ai fait à partir de 1942, sur il y a donc 30 ans. C'est la première fois que j'ai fait un livre sur lui, en 1942, et mon thème était le suivant. C'est traditionnel de dire que Jacques Rousseau est une espèce de fou. Je vous citais à ce propos un texte qui est devenu célèbre de M. Paul Bourget, le grand romancier catholique français, en 1912, lorsqu'il y a eu le deuxième centenaire de la naissance de Rousseau, et qu'à Paris, on avait fait de grandes manifestations. Alors, dans un article qui était immédiatement célèbre, enfin un grand retentissement, un article de la revue Critique que M. Paul Bourget a écrit, le gouvernement se trompe en choisissant la Sorbonne ou le Panthéon pour commémorer la mémoire de Jean-Jacques Rousseau. Il faudrait choisir plutôt le préau d'un hospice Sainte-Anne ou de la Salpêtrière, qui sont, comme vous savez, des maisons de fous, seul lieu convenable à la collaboration de ce, commémoration de ce dément. Bon. Alors, l'idée était qu'on est en présence avec Jean-Jacques Rousseau d'un détraqué. Alors, tout ce que j'ai essayé de montrer, et aujourd'hui je voudrais vous apporter des preuves complémentaires, tout ce que j'ai tenté de faire, c'est ceci. C'est vrai que vers la fin de sa vie, Jean-Jacques a donné l'impression d'être un homme détraqué. C'est vrai. Pourquoi a-t-il été presque détraqué? Parce qu'il avait été un homme traqué. Un homme traqué parce qu'il soutenait un certain nombre d'idées qui, au XVIIIe siècle, lui valaient des haines inexplicables. Quelles idées? Jean-Jacques est quelqu'un qui, en plein XVIIIe siècle, soutient, du point de vue politique et du point de vue religieux, des idées qui devaient infailliblement lui attirer les aversions les plus violentes. Vous savez, quand on dit ces choses-là, c'est pas très recommandable si on veut être, comme on dit, ami de tout le monde. Je ne veux pas attaquer ici, il ne s'agit pas d'attaquer un livre que je trouve très bien fait de M. Orieux sur Voltaire. C'est un livre allègre, bien écrit, extrêmement intéressant. Mais voyez-vous, quand j'ai lu ce bouquin de près, quand j'ai regardé ce qui concernait Voltaire et Rousseau, je me suis aperçu que M. Jean Orieux ne veut pas, enfin, désire ne pas aller au fond des choses. Il dit qu'il y a entre Voltaire et Rousseau simplement une espèce de rivalité d'homme de lettres. Et que si Voltaire a été particulièrement dur à l'égard de Rousseau, c'est que ce petit bonhomme l'agaçait. Mais non, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de choses extrêmement graves, nous allons le voir ensemble. Voltaire était quelqu'un qui avait des idées précises, et en politique, et en sociologie, et en religion, et les idées de Jean-Jacques lui paraissaient odieuses. Parce que quand Voltaire a fait contre Rousseau, les choses que nous regardons de près, que nous n'avions pas lues autrefois, et qui nous montrent l'énormité, vraiment la sauvagerie de la haine dont Jean-Jacques était victime. Voyez-vous, je pense encore à quelqu'un d'autre qui était fort estimable, qui était Monsieur Mauroy. Ben André Mauroy était aussi quelqu'un qui écrivait, comment dirais-je, soit pour être gentil avec tout le monde, pour ne pas avoir d'adversaire. Et ben comme j'ai dit les choses qui étaient inattendues et qui désobligeaient, eh ben j'en ai porté le poids. Par exemple, presque tout de suite, après avoir publié mon livre de 1942 qui s'appelait « Cette affaire infernale », un titre qui n'était pas de moi, c'est entre guillemets, « L'affaire infernale », c'est un mot qu'avait employé un ami de Jean-Jacques du Pérou pour caractériser ce qui se passait entre lui, Jean-Jacques, et les encyclopédistes, et Hume en particulier. À peine avais-je publié ce livre que j'ai été publiquement traité d'un certain côté de jésuite offensif. Offensif, c'était les inconditionnels de l'encyclopédie qui m'en voulaient. Et alors, en sens inverse, si vous vous rappelez, c'était 1942, c'était pendant la guerre, j'ai été absolument mis en pièces par le commentaire d'un journal extrême droite qui s'appelait Je suis partout. Et il n'y a pas tellement longtemps, je ne donnerai pas de précision là-dessus, il n'y a pas tellement longtemps, c'est l'année dernière, dans une ville de Suisse. On m'avait demandé de faire un exposé sur Jean-Jacques Rousseau. Alors, je fais mon exposé, je raconte mon truc, quoi. Bon, ça avait bien marché. Et puis, alors, à la fin, il y a un monsieur important, qui demande la parole, naturellement. Et ce monsieur très important, je vous le répète, me couvre le soir, c'est entendu, c'est pas intéressant, mais dit, heureusement que Jean-Jacques Rousseau est un personnage unique et solitaire, parce que des malfaiteurs comme cela, il n'en faut plus à Genève. Alors vous voyez que quand on parle de Jean-Jacques, on soulève encore un certain nombre de passions. Alors je vais lui consacrer deux exposés. Le premier exposé d'aujourd'hui sera concentré uniquement sur sa pensée politique. Il a commencé à publier dès 1751-52, Jean-Jacques Rousseau, et dès 1753, il commence à écrire des choses qui peuvent sembler gênantes. C'est un article qui, dans leur vie, s'appelait Le Mercure. Où il ose écrire ceci. Ce siècle de charlatanerie, où les plus grands fripons ont toujours l'intérêt à la bouche. Ça, 53. En 55, il fait son deuxième discours. Vous savez, premier discours sur les sciences et les arts, deuxième discours sur les origines de l'inégalité parmi les hommes. Et dans ce deuxième discours, origine de l'inégalité parmi les hommes, il a raconté une certaine anecdote. Il a tiré ça des mémoires du maréchal Villars, vous savez, qui était un des grands collaborateurs de Louis XIV, et il s'agissait des fournisseurs militaires. Ça ne nous dit plus rien aujourd'hui, enfin on en parle moins des fournitures militaires, mais je vous assure qu'au XVIIIe siècle, c'était une source de revenus considérable, notable. Je ne sais pas si vous savez que Voltaire, qui a laissé une fortune égale à aujourd'hui environ 600 millions de francs suisses, 600 millions de francs suisses, que Voltaire avait fait la plupart de sa fortune dans les fournitures militaires. Il approvisionnait les troupes des rois, enfin de Louis XV en particulier, fournitures de chaussures, fournitures alimentaires. Et bien ça rapportait, croyez-moi. Au moment de la Révolution, lorsque l'abbé d'Espagnac, qui était un ami très particulier, très personnel de Danton, a été un peu scruté par la justice, on s'est aperçu qu'en 1793, alors que la France est dans une situation délicate, et qu'il y avait des assignats qui baissaient beaucoup, cet abbé d'Espagnac, qui est un fournisseur militaire des armées révolutionnaires, faisait, c'est M. Mathiès qui l'a établi, l'historien Mathiès, il faisait environ 4 à 5 millions de bénéfices nets par mois. Et il exigeait non pas d'être payé en assignat, qui était plus ou moins déprécié, mais en monnaie, comme on dit, sonnante et trébuchante. Eh bien, figurez-vous qu'il s'était passé, au temps de Louis XIV, avec le maréchal Villars, un incident de ce même ordre, c'est-à-dire qu'on avait repéré, le maréchal Villars avait repéré qu'un de ses fournisseurs trichait. C'était comme ça qu'il s'enrichissait, vous savez, avec la complicité de quelqu'un au ministère de la guerre, on n'appelait pas ça comme ça, mais un intendant des armées. On disait par exemple, vous allez me payer, enfin, l'État me doit 100 000 paires de chaussures, alors qu'on avait fourni 10 000. Ou bien, ces paires de chaussures étaient en carton, etc. Bon. Toujours est-il que le maréchal de Villars avait été tout à fait indigné et avait décidé que ce personnage, ce fournisseur, serait jugé et serait même pendu. Alors voilà ce que raconte Jean-Jacques d'après le maréchal de Villars. Le maréchal Villars dit, lorsque je fis savoir à ce fournisseur militaire que j'allais sévir et durement contre lui, il répondit tranquillement, cette menace ne me concerne pas. On ne pend point un homme qui a 100 000 écus. Et avec une naïveté que j'espère sainte, maréchal de Villars continuait, je ne sais comment cela se fit, mais en effet, il ne fut pas pendu. Et Jean-Jacques enchaîne, disant, c'est que le riche tient la loi dans sa bourse. Il y a un texte de lui aussi sur le luxe. Vous savez, c'est une vieille tradition de dire, mais enfin, il ne faut pas que les gens protestent contre le luxe, les pauvres protestent contre le luxe, parce que le luxe lui fait vivre. Par exemple, à Paris, s'il n'y avait pas une brillante société, nous parlons du XVIIIe siècle, une brillante société qui fait des commandes à ses artisans du Faubourg Saint-Antoine parce qu'ils ont besoin de très beaux meubles, eh bien, ces gens seraient plus malheureux. Le luxe les entretient. Réponse de Jean-Jacques. Le luxe nourrit peut-être 100 pauvres dans nos villes, mais il en fait périr 100 000 dans nos campagnes. Il invente, je ne sais pas s'il invente, c'est un personnage qu'il appelle chrysophile. Vous savez, chrysophile, c'est le mot grec qui veut dire ami de l'or, ami de l'argent. Je ne sais pas si Jean-Jacques discuterait réellement avec quelqu'un, s'il a inventé ce personnage fictif pour faire un dialogue. Et ce chrysophile est quelqu'un qui dit à Jean-Jacques, c'est vrai, je voudrais bien être très riche, j'aime l'argent, parce que l'argent est une puissance, et qu'une fois que j'aurai beaucoup d'argent, je pourrais faire beaucoup de bien autour de moi. Jean-Jacques n'a pas en doute la sincérité de cet homme, mais il lui dit, tu m'as bien parlé de ta conduite, et t'en riche, hein, quand tu seras riche. Mais tu ne m'as rien dit de ce que tu ferais pour t'enrichir. Parce qu'il n'y a guère de fortune dont l'origine soit tout à fait clairement avouable et qui ne repose sur le détroussement d'autrui. Alors Jean-Jacques va écrire en faveur des choses que voici. Tout cet ordre social prétendu qui couvre en fait les plus cruels désordres. Comment voulez-vous que l'on admire une société où le profit est en raison inverse du travail? Ou encore ceci. Tout privilège au profit des particuliers qui les obtiennent est à la charge de la nation qui les donne. Ils s'amusent aussi de l'artifice usuel des financiers qui, pour dissimuler leurs opérations, répandent partout le bruit. C'est infiniment compliqué. Ah, il faut pour les comprendre avoir fait des études, c'est quelque chose que le profane ne veut pas comprendre. Et Jean-Jacques dit, oh, je comprends bien, il nous explique que c'est extrêmement complexe, et qu'ils emploient un langage obscur, afin que, ne l'entendant point ce langage, on n'ose pas le contredire. Il nous parle de ressorts, que l'on nous dit si profonds, que de peur que peut-être nous tentions de les découvrir dans leur simplicité. Reconnaissons. Que Jean-Jacques a un certain ton violent, je dirais âpre, je dirais même plaidéien dans sa critique sociale. Je vous en apporte trois petites preuves. ces gens du monde, si doux, si modérés, qui trouvent toujours que tout va bien parce qu'ils ont intérêt à ce que rien n'aille mieux, qui sont toujours contents de tout le monde parce qu'ils ne se soucient de personne, et qui autour d'une bonne table soutiennent qu'il n'est pas vrai que le peuple est saint.
Autre chose, il y a une lettre de Jean-Jacques à un aristocrate, c'est le comte de l'Astute, dans laquelle il lui dit, à certains tons, ce ne serait pas la peine d'avoir des gens, c'est des domestiques, quoi, ce ne serait pas la peine d'avoir des gens qui ne vous servaient à chasser le pauvre quand il demande son dû. En 55, dans un article de l'Encyclopédie qui s'appelait Économie politique, Jean-Jacques avait écrit le paragraphe que voici. Quand un riche circule dans son carrosse, un charretier se trouve-t-il sur son passage, ces gens seraient prêts à l'assommer, et 50 honnêtes piétons allant à leurs affaires seraient plutôt écrasés qu'un chacun oisif retardé dans son équipage. Quand il écrit ça, Jean-Jacques, il ne se doute pas qu'il est québécois, qu'il est prophétique, parce que ce qui va lui arriver, lui-même, le 24 octobre 76, il avait à ce moment-là 64 ans, et il va être renversé, ce vieux type va être renversé dans la rue par un grand chien qui appartenait au comte de Saint-Fargeau et qui courait devant le carrosse de M. Saint-Fargeau. Vous avez entendu ces trois textes. Ben, il est évident qu'il y a un ton populaire là-dedans, un ton peuple. C'est pourquoi M. Ferdinand Brunetière, le grand critique d'Arbitre et le Monde, quand il avait parlé de Jean-Jacques, avait dit c'est un homme qui, de par ses origines, est peuple au sens le plus facile du mot. Vous avez compris, ça veut dire qu'on est infréquentable, enfin c'est quelqu'un qui n'est pas admissible chez les gens de Dieu. Là, nous arrivons maintenant au contrat social. Et quand on pense contrat social, quand on pense Jean-Jacques plutôt, on se dit l'essentiel dans votre politique, c'est dans ce livre. J'ai lu plusieurs fois dans ma vie et je viens de le relire pour ces exposés. C'est un livre complexe, hein, qui n'est pas tellement clair. Et je ne voudrais accuser personne, bien sûr, il y a surtout un de mes amis, c'est quelqu'un qui a fait une préface il n'y a pas longtemps, une nouvelle édition du contrat social, dont je ne suis pas extrêmement satisfait parce qu'il ne montre pas l'ambiguïté de ce texte. Voyons, Jean-Jacques, dans le contrat social, prend à bras le corps ce problème, qui est le problème capital d'organisation sociale, quoi. Comment est-ce qu'on peut concilier l'autorité et la liberté? Il est évident qu'aucune société n'est concevable sans une autorité. Mais où la trouver, cette autorité? Où sera-t-elle légitime? La Jean commence à partir d'une idée qui ne lui est pas particulière à lui, c'est une idée que vous trouvez même chez Saint Thomas, à savoir ceci, aucun homme, n'a sur son semblable une autorité naturelle. Ça veut dire que nous sommes tous pareils, et qu'aucun homme n'est qualifié pour donner un ordre, pour imposer sa volonté aux autres. Ce qui fait que le système monarchique et le système oligarchique est répudié par Jean-Jacques. Monarchie, c'est le mot grec, hein, ça veut dire le commandement d'un seul, monos. Et bien, un seul, qui s'appelle le roi, n'a aucune raison d'imposer sa volonté à une collectivité. Oligarchie, quand on dit grec, là, oligos, ça veut dire petit nombre. Et bien, un petit nombre, soit d'aristocrates, soit de riches, n'est pas non plus habilité, n'est pas qualifié pour imposer sa volonté à la collectivité. Alors, où trouver une autorité légitime? Jean-Jacques dit la seule autorité légitime, c'est celle de la volonté générale. Alors vous allez croire, c'est immédiatement suffrage universel, république, quoi, ce qu'on appelle la souveraineté nationale, et c'est là où la pensée de Jean-Jacques est assez délicate et même ambiguë. Jean-Jacques dit, il faut distinguer entre la volonté générale et la volonté de tous. Ça paraît des têtes d'étage, hein, mais il faut bien comprendre ce qu'il veut dire. Jean-Jacques estime qu'au fond de chaque individu, et nous le verrons lorsque j'étudierai sa pensée philosophique religieuse, au fond de chaque individu, il y a une orientation spontanée vers le bien. Ce qui fait que ce qu'il nomme la volonté générale, c'est l'accord substantiel, l'accord naturel, l'accord instinctif, selon lui, de toutes les volontés dans la direction du bien. Mais la volonté de tous, qui paraît semblable à la volonté générale, alors pas du tout, dit Jean-Jacques, la volonté de tous, ça ne peut être, et c'est très souvent, que l'accumulation de volontés individuelles, les volontés individuelles qui vont dans tous les sens, qui sont divergentes, et qui ne sont pas, parfois, et hélas, assez souvent, semblable à cette volonté générale, c'est-à-dire à cette orientation naturelle vers le bien. Pour bien vous expliquer la situation, je vais vous référer à Victor Hugo, à quelque chose de Victor Hugo. C'est un texte que Victor Hugo a écrit dans Napoléon le Petit en 1852, c'est-à-dire au lendemain du coup d'État du 2 décembre 51. Je vous rappelle l'histoire du coup d'État. Il y avait une République, c'est la deuxième République française. Il y avait depuis 1848 un président de la République française. Ce président de la République s'appelait dangereusement, si on le reconnaît, Louis-Napoléon Bonaparte. Mais néanmoins, le 20 décembre 1848, à l'Assemblée nationale, ce président de la République en exercice, Louis-Napoléon Bonaparte, avait fait un serment, comme il disait, devant Dieu et devant les hommes, je fais le serment de respecter la Constitution républicaine dont j'ai la garde. Et il se trouvait que, 4 ans plus tard, le 2 décembre 1851, ce président de la République s'était conduit comme un parjure, et il avait étranglé, par coup de force, cette Constitution républicaine, dont il était le représentant et le gardien. On pensait bien que Victor Hugo avait été indigné en disant « Mais c'est le président lui-même qui s'est mis dans l'illégalité puisqu'il n'a pas fait ce qu'il avait promis de faire. » Mais le président, lui, Napoléon Bonaparte, son opération réussie, avait organisé un plébiscite et avait demandé à la nation française « Qu'est-ce que vous pensez de ce que j'ai fait? Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ?» Or, c'était mal. Et cependant, la nation française a vu qu'une énorme majorité va dire « C'est très bien ce que vous avez fait. » Alors Victor Hugo qui a reçu un coup au cœur, vous savez, de voir que la volonté de tous est contraire à la volonté du bien, à la volonté générale, que la volonté de tous va approuver quelque chose qui est mal, Victor Hugo écrit ceci que j'ai relevé là. Faites déclarer par 7 500 000 voix que 2 et 2 font 5, ça ne changera rien. 2 et 2 ne feront toujours pas 5. Et il ajoute, la vérité morale n'est pas plus à l'exercice d'un vote que la vérité algébrique. Alors vous voyez, c'est une illustration très précise de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il y a des cas où la volonté de tous n'est pas conforme au bien, c'est-à-dire n'est pas conforme à la volonté générale. Alors Jean-Jacques, comment est-ce qu'il va faire pour essayer de concilier cette volonté générale et cette volonté de tous? C'est là où je trouve que la plupart des commentateurs glissent, parce qu'évidemment la pensée de Jean-Jacques est glissante, elle est fluide. Il dit, il faut un législateur, il emploie un L majuscule. Un législateur qui lui aura assez d'autorité, aura assez de prestige, aura assez d'affection autour de lui pour arriver à persuader les gens et à faire coïncider cette volonté de tous avec la volonté générale. Où est-ce qu'on va le trouver, ce législateur? Et quel est l'homme qui aura assez d'autorité naturelle, hein, pour persuader les gens qu'il faut aller dans tel sens plutôt que dans tel autre? C'est là, à mon sens, ce qui est plus faible dans le contrat social. Et Jean-Jacques s'en rendait parfaitement compte. Et c'est des choses dont on ne dit pas assez. À savoir que son contrat social, il ne voulait plus qu'on en parle là. Lui-même reconnaissait que ça ne l'est pas. Il y a une lettre de lui qui est en 67, si je ne me trompe pas, à Mirabeau. Attention, ce n'est pas le grand Mirabeau révolutionnaire, c'est le père de Mirabeau. Et bien, dans une lettre à Mirabeau, carrément, oui, c'est 67. Jean-Jacques lui dit, dans mon malheureux contrat social, ce que j'ai essayé de faire, c'est la quadrature du siècle. Vous savez qu'on n'y arrive jamais. Et puis en 1690, donc au début de la Révolution, un nommé Dussault, a publié un livre qui s'appelait « Entretien avec Monsieur Jean-Jacques Rousseau ». Et dans un de ses entretiens, et je n'ai aucune raison de suspecter la sincérité de ce monsieur Dussault, dans un de ses entretiens, Dussault dit, lorsque j'ai parlé à Jean-Jacques de son contrat social, il m'a dit très simplement et très carrément, c'est un livre à refaire. Pourquoi un livre à refaire? Parce que Jean-Jacques est un imbécile et qu'il a beaucoup réfléchi à ces problèmes que nous regardons aujourd'hui, un peu le problème de la cité humaine. Et il a parfaitement compris, il a rapidement compris, qu'on n'y arrivera jamais à faire une société juste, une cité harmonieuse, comme dira Peggy, tant qu'on n'aura pas modifié les dispositions des esprits et des cœurs. Il s'agit d'agir sur chaque individu et de faire que chaque homme comprenne ce qu'il est substantiellement et quelle est sa destination. Au début de l'Émile, Jean-Jacques a une phrase sur laquelle on n'attire pas d'habitude évidemment l'attention. Il dit « Notre véritable étude est celle de la condition humaine. » Ça a l'air du Malraux, hein. Vous avez entendu, il a bien dit ça. « Notre véritable étude est celle de la condition humaine. » Et si vous réfléchissez à l'idée centrale et déterminante de ces trois grands livres, qui s'appellent l'un l'Héloïse, le deuxième l'Émile, le troisième le contrat social, vous apercevez que c'est cette idée de la disposition des esprits et des cœurs qui domine les trois livres. Dans l'Émile, c'est l'individu, c'est la formation, c'est l'éducation, quoi. C'est le numéro un, c'est l'individu, quoi. Ça. Dans l'Héloïse, c'est le premier couple, c'est la famille, et dans le contrat social, c'est la collectivité. Mais les trois livres sont dominés, déterminés par cette idée, il faut avant tout que l'homme comprenne ce qu'il est, quelle est sa nature, quelle est sa finalité, et quel doit être l'objet réel de sa connaissance. Seulement, Jean-Jacques est quelqu'un qui dit, avant de persuader les gens, avant de leur expliquer ce qu'ils doivent désirer, il faut que je leur fasse prendre conscience du milieu dans lequel ils sont. Il faut qu'ils ouvrent les yeux sur l'iniquité sociale et qu'ils réfléchissent un peu à ce qu'on leur fait faire, qu'ils prennent conscience de leurs conditions d'exploiter. Ben ça, vous savez, c'est exactement ce qu'a voulu faire Robespierre. Robespierre est quelqu'un en 1789, au début de l'année 89, lorsqu'il était candidat aux États généraux, qui avait répandu ce qu'on appellerait aujourd'hui un petit tract. Vous avez une phrase assez remarquable que je crois savoir par cœur, et qui est la phrase que voici. C'est du Robespierre, hein, ça, juste avant les États généraux. La plus grande partie de nos concitoyens est aujourd'hui réduite par l'indigence à ce dernier degré d'avilissement, où l'homme, uniquement préoccupé de survivre, n'a pas les moyens de réfléchir aux causes de sa misère et aux droits que la nature lui a donnés. Eh bien, cet effort de Robespierre, c'était exactement la suite de l'effort de Jean-Jacques Rousseau, qui voulait deux choses, premièrement la dénudation de la réalité sociale, et deuxièmement le dessillement, ça fait les yeux s'ouvrent, des victimes de cette révolution, de cette iniquité sociale. Comprenez bien qu'un homme qui vous propose des choses pareilles va vouloir se dresser contre lui les foules de gens. Et les deux choses que je voudrais vous dire dans cet exposé, c'est les haines que Jean-Jacques va subir du côté de l'encyclopédie, et les haines qu'il va connaître dans sa ville natale, à savoir Jolet. L'encyclopédie. Là, nous sommes sur là un vrai problème. Et peut-être qu'autrefois, je n'avais pas assez insisté là-dessus et je voudrais être parfaitement clair. Quel problème? Lorsqu'en 1912, j'en parlais au début de cet exposé, il y avait une grande célébration, une grande commémoration à Paris, à Sorbonne et au Panthéon pour la mémoire de Jean-Jacques, on avait étroitement associé, c'est la troisième République à ce moment-là en France, on avait étroitement associé dans ces célébrations les deux noms de Voltaire et de Rousseau. Comme si Voltaire et Rousseau avaient été ensemble à l'origine de la Révolution française. Vous vous rappelez du reste la chanson de Gavroche dans Les Misérables, c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau. Il y a donc une espèce de tradition, que j'appellerais plutôt une légende, assez établie aujourd'hui, assez indurée, vous savez, qui lie dans les esprits des gens les deux noms antagonistes, en fait, de Voltaire et de Rousseau à l'égard de la Révolution. Faites bien attention que si le corps de Voltaire, les cendres, comme on dit, de Voltaire avait été transféré au Panthéon, c'était par la volonté de la Constituante, de l'Assemblée Constituante, qui avait décidé ça en 1890. Et la Constituante n'aurait jamais voulu conduire au Panthéon les cendres de Jean-Jacques. Et il faudra attendre, soit 94, il faudra attendre que ce soit redécidé à ce soit au pouvoir pour imposer, je dis bien imposer presque de force, à la majorité bourgeoise de la Convention, le transfert des cendres de Jean-Jacques à son tour au Panthéon. Et lorsqu'il avait été question à la Constituante de ce transfert au Panthéon des cendres de Voltaire, on avait vu Marat, dans sa publication qui s'appelait L'âme du peuple, s'élever avec une extrême violence en disant « Mais vous ne savez pas de qui vous parlez, enfin, mais Voltaire était notre ennemi. » Voyons, comprenons bien ce qui s'est passé, mais pour de bon, alors, en 1789. Ben, en 1789, en réalité, c'est une nouvelle couche sociale qui s'était créée et développée surtout au XVIIIe siècle, qu'on appellera la richesse mobilière. C'est-à-dire la banque, le commerce, l'industrie qui commençait à se développer, et qu'il y en avait assez de voir la richesse immobilière, c'est-à-dire la richesse terrienne, qui était possédée par l'aristocratie et le clergé, avoir entre les mains les leviers de commande. Alors c'était une espèce de protestation de cette classe supérieure du tiers-état, la roture dorée, qui voulait à son tour saisir le commandement. Mais il était bien entendu que ce qu'on pourrait appeler déjà, ce qu'on appelait parfois déjà le quatrième état, c'est-à-dire l'immensité des Français, c'est-à-dire les travailleurs français, devaient rester dans leurs conditions serviles. La révolution de 89, pratiquement, c'est une rixe de bourgeois, c'est une bagarre de possédants sur le dos de ce que Victor Hugo appellera la cariatide, c'est-à-dire les travailleurs. Eh bien, Voltaire était absolument de cette idée-là. Voltaire était quelqu'un qui ne voulait pas que l'on touchât à la condition des travailleurs. Au point qu'il avait écrit cette phrase, je ne cesse pas de citer parce qu'on la connaît très peu et qu'elle est éclatante. Voilà ce que Voltaire avait dit sur un pays bien organisé. Un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui, vous entendez bien, est nourri par lui, et le gouverne. Alors d'après ce que je viens de vous expliquer sur la pensée de Jean-Jacques, vous vous rendez compte de l'antagonisme, mais total et absolu, enfin de l'antithèse furieuse qu'il peut y avoir entre la pensée sociale de Jean-Jacques Rousseau et la pensée sociale de Voltaire. S'il y a que dès que Jean-Jacques commence à exprimer ses idées politiques et sociales, du côté de l'encyclopédie, on se met à les dévorer, on se met à l'attaquer, par exemple, la correspondance littéraire. Vous savez pas ce que c'est, la correspondance littéraire, c'est une espèce de truc qu'on appellerait aujourd'hui ironéotypé, un bulletin qui était à ce moment-là recopié par les scribes, et qui était envoyé à tout ce qui comptait en Europe, et c'était Grimm, un encyclopédiste qui le rédigeait. Eh bien, la correspondance littéraire va reproduire le 1er mars 56, à la suite du texte de Jean-Jacques Rousseau qui s'appelle « Le discours sur l'origine de l'inégalité », une attaque d'un jésuite, qui s'appelle vraiment Père Castel, et qui dit « Rousseau est quelqu'un qui allume le feu de la sédition et qui détruit toute société ». Quant à Voltaire, voilà son jugement sur l'origine de l'inégalité, c'est la philosophie d'un gueux qui voudrait que les riches fussent dépouillés par les pauvres. De même, voici encore la correspondance littéraire de Grimm du 15 avril 59. Rousseau, qu'est-ce qu'il fait? Il habille de rhétorique des opinions triviales qui plaisent aux gens de la populace. Et Madame Dudéfant, qui est une encyclopédiste, qui est une amie de Voltaire et du groupe, écrit « Ce Jean-Jacques, si nécessaire, il remettrait tout dans le chaos. Ben, » vous savez ce qui va lui arriver à Jean-Jacques, c'est le décret de prise de corps du 9 juin 62. Le Parlement décide qu'il faut faire l'arrestation de Jean-Jacques Rousseau. Ce que l'on sait moins, et ce que je voudrais bien mettre en lumière, c'est que l'encyclopédie n'est pas pour rien dans l'arrestation de Jean-Jacques. Madame de Verdelin, qui était une femme du monde, qui était très bien placée, qui connaissait beaucoup de choses, va écrire carrément ceci à Jean-Jacques, c'est le troupeau encyclopédique qui a mis en branle les magistrats. Parmi les membres du Parlement, qui étaient tous de très grands bourgeois, il y avait une majorité de voltairiens, ils étaient trop contents de frapper Jean-Jacques, ennemi de la société, et dangereux. Et ils vont réussir ce coup fumant d'avoir avec eux l'archevêque de Paris, ça s'appelait Christophe de Beaumont, qui va lancer un mandement contre Jean-Jacques, et Jean-Jacques répondra ainsi, « Étrange apôtre, qui n'ose ou ne veulent rien dire que ce qui convient à ceux qui commandent, payés par le fort pour prêcher le faible, ils ne savent parler aux faibles que de ses devoirs et aux forts que de ses droits. » Bon, vous avez vu du côté de l'encyclopédie ce qui s'est passé. Genève, maintenant. Jean-Jacques est donc frappé en France, où il habitait, le 9 juin 62, ce décret de prise de corps. Il arrive à s'évader, il s'échappe, une bastide, naturellement, vers sa ville natale. Il est rentré dans la communauté genevoise en 54, il croit, le pauvre fils, avoir fait honneur à sa ville, à la ville de Genève, en lui dédiant son discours sur l'origine de l'inégalité. Oh, mais ça n'a pas plu du tout, vous savez, aux notables de Genève. Il y a un très grand notable, aujourd'hui oublié, qui s'appelait Monsieur Bonnet, Charles Bonnet, qui était propriétaire à Gento, enfin, on l'appelait le seigneur de Gento, et qui l'a immédiatement riposté par un texte qu'il a signé Philopolis, c'est-à-dire Ali de la ville, où il a déclaré que Jean-Jacques est un personnage bien dangereux. Là, il y a une certaine Madame de Constant, qui est dans la belle société genevoise, et qui dit, à propos de ce discours de Jean-Jacques, rien n'est plus chaud et plus fait pour le bas. C'est-à-dire quoi, pour le bas à Genève, là, il y a les rues hautes, ce sont des rues bien, hein. Et puis la rue basse, c'est les rues basses, et les rues plébéiennes, elles sont du côté de Jean-Jacques, mais Jean-Jacques est infiniment dangereux. Alors, le malheureux Rousseau qui ne s'attend pas une seconde, hein, et qui se dit, je vais trouver refuge dans la ville natale, pas du tout. Il n'a même pas arrivé à Genève, à Yverdon, quand il apprend brusquement que les autorités genevoises elles-mêmes, à la suite d'un rapport prononcé par le procureur général Ponchin, ont décidé que lui, genevois, serait aussi mis en état d'arrestation s'il mettait les pieds sur le territoire de la République de Genève. C'est un coup extrêmement dur pour lui. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Vous savez qu'il va se réfugier à moitié, va réfléchir sur ce qui se passe à Genève. Il dit, en fait, qu'est-ce qui est arrivé à Genève? Alors dans ses lettres écrites de la montagne, il va se référer à l'histoire de Genève. Et il va dire, mais au départ, c'est vrai qu'il était cette république. Mais je m'aperçois que cette république, elle est devenue assez drôle. Enfin, elle est devenue l'oligarchie. C'est une espèce de république de banquiers. Enfin, c'est un conseil d'administration qu'on appelle le petit conseil. Il se rappelle qu'un protestataire en 1707, avait demandé que fût limité le nombre des gens de la même famille appartenant aux deux conseils. Il y avait le grand conseil, 200, et le petit conseil. On avait balancé cette réclamation, si bien qu'au moment où Jean-Jacques disait et écrivait, il n'y avait pas moins de 10 Malais et de 7 Tramers au petit conseil de Genève, avec tout un fulgulement de Lulin, de Galassin et de Tronchin. Jean-Jacques publie ses lettres écrites de la montagne. Là, vous imaginez le bruit que ça peut faire, hein. Épouvante à Genève. Les notables se disent, il a soulevé contre nous les rues basses. Une fureur contre Jean-Jacques. Une telle fureur qu'on voit dans les lettres des gens qui s'écrivent les uns aux autres en disant, tout de même, il n'y a pas si longtemps, c'était en 1707, Nicolas Lemaître, bon, on l'a arrêté, on l'a torturé, ensuite on l'a exécuté. Et puis Pierre Facio, il a été arquebusé dans la cour de sa prison. Et puis Michele Ducret, il a été condamné à mort, il a été ensuite condamné simplement à la détention perpétuelle. Si on pouvait le tenir, ce Jean-Jacques, on ne peut pas le tenir parce qu'il est à Deschâtel, enfin, qui est une terre cruciale à ce moment-là. C'est pour vous montrer la violence des haines qui se éclatent contre lui, au point que le seigneur de Gento, Bonnet, dit à son fils, c'est Jean-Jacques, c'est un monstre, c'est un véritable monstre. Il n'y a guère que 200 ans, c'est lui, et non pas son livre, que nous aurions fait rôtir. Ce que je viens de vous dire m'amène, en une dernière seconde, minute, à vous indiquer la longue haine qui a persécuté Jean-Jacques Rousseau. Si vous vous reportez aux gens, bien par exemple à M. Taine, de ses origines d'histoire contemporaine, voyez Taine déclarer, Rousseau, une rancune de plébéien, pauvre et aigri, et qui entrant dans le monde et trouvant la place prise n'a pas su faire la sienne, il n'échappe à l'envie que par le dénigrement. Les trois grands auteurs, les trois grands critiques de ma jeunesse, Brunetière, Saguet, Lemaître, Brunetière, je vous l'ai dit, un peuple au sens le plus facile du mot, Saguet, Rousseau, un être amputé de sens moral, Gilles Lemaître, jamais plus de mal n'a été fait par un écrivain que par cet homme-là. Donc c'était vrai que Jean-Jacques avait écrit dans ses dialogues. Il avait écrit ses dialogues à la troisième personne, nous sommes en 1774, et il dit ceci, vivant ou mort, il, dit Jean-Jacques, vivant ou mort, il les inquiétera toujours. Qui ça, les sages, quoi, les raisonnables, les avisés, les gens de bien, les honnêtes gens. La fois, je vous ai parlé de la pensée politique de Rousseau, et aujourd'hui, on va regarder ensemble sa pensée religieuse. Là, je vous cache pas que c'est un sujet sabreux, qui est difficile à traiter, Parce qu'il y a d'un côté les amis politiques, c'est-à-dire Jean-Jacques, qui n'aiment pas beaucoup son aspect religieux, ils jettent un voile là-dessus, c'est une infirmité qui est arrivée à leur héros. D'autre part, les ennemis de Jean-Jacques, les ennemis politiques de Jean-Jacques, qui sont d'habitude ce que l'on appelle les bien-pensants, ben, ces bien-pensants, ça leur coûte beaucoup de reconnaître que Jean-Jacques pensait en religion ce qu'ils prétendent, eux, penser. J'ai appelé votre attention la dernière fois sur quelque chose que je crois capital. C'est-à-dire que toute l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau est dominée par une certaine préoccupation d'ordre religieux. Et cette préoccupation, c'est d'expliquer ce que c'est la nature profonde de l'homme, la destination de l'homme. Dans le deuxième discours, le régime de l'inégalité, il avait mis ce qu'on appelle une épigraphe. C'est un texte latin. Pardonnez-moi de faire le cuivre, je vais vous dire comme il l'a écrit, c'est le poète latin Perse. Homme, quem te Deus esse iusit disque. Disque, c'est un impératif qui veut dire apprends. Homme, créature, apprends ce que Dieu a voulu que tu sois. Comprends, entends bien ce que Dieu désire que tu sois. Et là-dessus, voici les citations de Jean-Jacques. Que l'homme vive de la vie de l'homme, je ne demande rien d'autre. On ne peut être heureux qu'à proportion qu'on se rapproche de soi. La créature n'est libre qu'à l'heure où sa volonté pèse actuellement et tout entière vers cela même qui est son vœu le plus profond. Écoutez bien celle-ci, c'est du Jean-Jacques, hein. Notre vrai moi n'est pas tout entier en nous. C'est exactement du Pascal. Et quel Pascal disait, l'homme passe infiniment l'homme. Et c'est assez saisissant de penser que Jean-Jacques Rousseau, qui, à mon avis, connaissait très peu Pascal, n'avait pas pratiqué le rejoint, la convergence de ces deux grands esprits à travers un siècle. C'est ça, la grande idée de Rousseau. Alors vous pensez bien que ça ne va pas plaire à un certain nombre de gens. Oui, il déclare très carrément, je suis chrétien. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui avoue, non, l'idée du péché originel, ça, je n'y souffrais pas. Et nous voilà en face de ce fameux problème de la bonté originelle de l'homme qu'on lui jette sans cesse à la face. Il n'y a pas tellement longtemps, il y a quelques semaines ou quelques mois, j'ai encore lu un article pourtant bien fait sur Jean-Jacques, mais avec le sourire convenable, le sourire ironique, oui, c'est vrai, il croyait à la bonté originelle de l'homme. Regardons bien les choses. C'est parfaitement vrai que Jean-Jacques n'accepte pas l'idée mythologique du jardin d'Éden et de la pomme, du fruit défendu. Non, l'idée du péché originel tel qu'il est raconté par la théologie catholique, il ne l'accepte pas. Et en même temps, même Jean-Jacques dit, il est tout de même certain qu'il y a une chute, que l'homme était meilleur et qu'il est devenu moins bon. Alors pour substituer une autre explication à l'explication du péché originel, il a trouvé l'idée de la société, de l'agrégat humain. Et ça, c'est dans le deuxième discours qu'il le dit, c'est vrai, l'homme était bon naturellement, mais il s'est trouvé que quand il a été en rapport avec ses semblables, il est devenu mauvais. Et ce n'est pas tenu longtemps. Et c'est facile de comprendre pourquoi. C'est qu'il y avait une absurdité fondamentale. Si l'homme est bon, créature bonne, et s'il y a à côté une autre créature bonne, comment ça se fait que bon plus bon égale mauvais? Si bien que lui-même n'a pas tenu longtemps cette première affirmation. Alors il en est venu simplement à parler d'altération, et si vous faites attention chronologiquement à ce que Jean-Jacques nous dit sur ce problème à travers toute son œuvre, vous apercevez qu'il ne tient même plus à son idée d'altération, et qu'il tient simplement à l'idée d'imperfection. Il dit, l'homme, oui, est bon spontanément, il va directement spontanément vers le bien, mais il y a en lui une imperfection qui fait que cet amour du bien se trompe d'objet. Et bien savez-vous que c'est exactement l'idée théologique de ceux-mêmes qui croient au péché originel et qui disent, le péché originel n'a pas atteint l'homme dans sa substance, il a toujours son amour spontané du bien, mais c'est un amour enténébré et qui se trompe d'objet. Jean-Jacques ne dit pas autre chose. Faites encore attention à ceci, il a modifié son idée sur l'homme primitif. Quand il rédigeait son deuxième discours, c'était en 54, il l'a publié en 55, il était, si je puis dire, c'est vraiment le mot, vous savez, sous le contrôle de Diderot. Diderot se méfiait de Rousseau, vous voyez qu'il se dirigeait, comme il disait, vers une capucinière, c'est le mot qu'avait employé Diderot. Alors il lisait par-dessus son épaule, il y tenait le poignet, c'est même pour ça que Jean-Jacques avait parti la tête, a fini par quitter Paris pour aller travailler à la campagne. Eh bien, sous la poussée de Diderot, il s'était dit, si, ça existe, l'homme primitif. Il y a des bons sauvages. Et Diderot lui disait, vous savez, Bougainville, dans son voyage là-bas en Océanie, il a trouvé de bons sauvages. Alors Jean-Jacques commence par parler de l'homme de la nature, en disant, l'homme tel qu'il est, l'homme primitif, l'homme qui n'est pas civilisé, est un exemple parfait de la bonté naturelle. Il s'est un peu renseigné, il s'est aperçu que ce n'était pas vrai, ces fameux bons sauvages n'étaient pas tellement bons, qu'ils avaient en eux toutes sortes de férocité. Alors il a substitué à cette expression, l'homme de la nature, une autre expression qui est la nature de l'homme. Et dans une lettre à Frontière qui est de février 1758, il dit exactement, non c'est pas à Frontière, c'est à Verne. Dans cette lettre à Verne, il lui dit exactement ceci, j'ai consulté la nature, c'est-à-dire le sentiment intérieur. Encore Pascal. Sentiment intérieur, c'est exactement le cœur du cœur dont nous parlions de Pascal, chez Pascal, c'est-à-dire cette étincelle fondamentale, enfin, cette espèce de braise qui est chez l'homme et qui est à la fois la présence de Dieu et la seule chance qu'il a de comprendre le sens de la vie. Vous dites, je suis chrétien, c'est Jéhovah qui l'a écrit, en tout cas, littéralement. Il a écrit ça dans les lettres de la montagne. Et en même temps, le même Jéhovah qui veut être parfaitement loyal reconnaît qu'il y a quelques petites difficultés, par exemple les miracles. Il n'aime pas beaucoup, il l'a dit dans la profession de foi du vicaire prévoyard, une apologie par les miracles et une apologie dangereuse. Parce que, dit-il, il est malaisé de croire que cet appui que l'on veut donner à la croyance n'est pas en réalité un obstacle. Réfléchissez un peu, enfin, on veut conduire les hommes à ce qu'on estime être la vérité, et on leur fait prendre la voie dangereuse de quelque chose qui leur appartient, qui leur apparaît comme suspect ou comme incroyable. Donc, apologie par les miracles, non, dit-il, j'aime pas beaucoup ça. La question du Christ Dieu maintenant, le Christ est-il Dieu? Et bien là-dessus, Jean-Jacques va écrire ce qui suit, que je me permets de lire lentement parce que ça va assez loin. C'est une lettre au pasteur de Genève. Je ne sais pas bien si je crois à Jésus-Christ dans votre idée, car je l'entends mal. Mais, reconnaissant dans l'Évangile une autorité divine, je crois ce Jésus-Christ revêtu de cette autorité. Je vois une vertu plus humaine dans sa conduite et une sagesse plus humaine dans ses leçons. La prière. Il a dit des choses un peu contradictoires là-dessus. Il a dit, mais pourquoi prier? Pourquoi demander quoi que ce soit à Dieu? Si Dieu nous aime, il sait ce qui nous convient mieux que nous savons nous-mêmes. Et il écrit, près d'un Dieu juste, la meilleure manière de demander, c'est de mériter d'obtenir. Ça ne vous rappelle pas non plus quelque chose qui est dans l'Évangile, où le Christ dit à ses disciples, vous savez, c'est pas en demandant Seigneur, Seigneur, que vous obtiendrez une grâce. C'est en faisant la volonté de mon Père. Et Jean-Jacques va écrire carrément ceci, j'ai toujours approuvé. Que l'on se joigne à l'église qui prie, le vicaire savoyard priait, et moi aussi, je prie. Dans les lettres écrites de la montagne, il y a un paragraphe, à mon avis, enfin, extrêmement important, où Jean-Jacques dit, je sais bien pourquoi on me déteste. C'est parce qu'à travers ce siècle d'incroyants, j'ai essayé, moi, de me constituer le mainteneur ou le sauveur de cette idée de Dieu que les gens autour de moi récusent. Et j'ai vu, il y a quelques années, à l'Université nationale, au cabinet des estampes, une estampe que je voudrais vous décrire et qui me paraît d'un extrême intérêt. Elle était datée, 1788, donc à la veille de la Révolution. On voit une énorme croix sur laquelle il y a une tête. Hein. Cette croix, des gens ont jeté un lasso au sommet de la croix. Et ils tirent sur le lasso pour déraciner cette croix. Et on les reconnaît très bien, ces gens. Là, c'est l'encyclopédie, quoi. On voit Voltaire au premier plan, on voit Grimm, on voit D'Alembert, on voit Diderot, qui sont là, qui tirent de leur force pour que la croix tombe. Et contre cette croix qui est rangée, il y a un petit bonhomme qui est là, arc-bouté, qui soutient sa croix de toutes ses forces, et c'est Jean-Jacques Rousseau. Puis je voudrais vous apporter encore deux lettres, c'est pas vieux, ça n'a pas tellement vieux, c'est de 69, deux lettres, l'une à Frontière et l'autre à Moultou. Son ami Frontière, si vous préférez le sage grec, il s'agit de Socrate, hein, c'est que vous n'avez pas fait connaissance avec l'autre. L'autre, c'est Jésus-Christ. Puis à Moultou. Moultou, c'est un camarade à lui, c'est presque son copain. C'est un pasteur. C'est un pasteur qui est en train de perdre la foi. Je dois dire que Moultou se laissait assez fasciner par Voltaire, est allé le voir plusieurs fois, que Moultou écrivait à son père des enthousiastes, par exemple, c'est Voltaire marché à Fermer. Alors, Moultou, à vous, à Jean-Jacques, vous savez, j'y crois plus grand-chose. Moultou, Moultou, comment avez-vous fait? Jésus-Christ, que ce siècle a méconnu, sans doute, parce qu'il était indigne de le connaître. Jésus-Christ n'est pas mort tout entier sur la croix. Il est là, avec nous, mystérieusement, et vivant. Bon, bien ce Rousseau, qui déclare je suis chrétien, qui a voulu essayer de se battre pour maintenir l'idée chrétienne, savez-vous qu'il a été, avec une extrême violence et que ça continue, réfugié, répudié, refusé par les catholiques, par les bien-pensants, par les chrétiens dans leur ensemble. Pourquoi? Parce qu'il avait commis le péché irrémissible, il avait commis la faute capitale, il avait touché à l'arche. Qu'est-ce que cette arche? Mais c'est l'argent avec une majuscule. Alors ça ne vous attendra pas sans doute que M. Brunetière, le catholique Brunetière, va dire, entre Voltaire et Rousseau, il y a au moins cette différence, que Voltaire, nous devons lui savoir gré d'avoir toujours défendu la grandeur de l'institution sociale, parce que Jean-Jacques, lui, il a mis en cause l'institution sociale. Alors, comme il s'agit de dire, mais ça, c'est pas vrai, il n'est pas chrétien, qu'est-ce qu'on va trouver contre lui? On va trouver des calomnies. Et exactement à propos de cette fameuse idée de la bonté originelle. Lorsqu'il y a eu au Parlement de Paris, je vous le disais la dernière fois, le décret de prise de corps contre lui, qui est du 9 juin 1962, le réquisitoire de Joly de Fleury, c'est comme ça, M. Joly de Fleury, a été fondée en grande partie sur l'idée de la bonté naturelle où, paraît-il, d'après M. Joly Fleury, Jean-Jacques est un homme qui conseille à la créature de rester, c'est bien, abandonné à ses passions et livré à tous les plaisirs des sens.
Or, c'est un contresens que disait Joly Fleury, parce que 10 fois, 20 fois, Jean-Jacques avait dit, il n'est pas de vertu sans combat, ce qui signifie qu'il y a en nous une propension au mal, et on est obligé de lutter contre soi-même. Ben, savez-vous que c'est l'histoire de 1762, enfin, elle est plutôt loin, a été repris, a été carrément repris dans 1923, si je ne me trompe pas, par Maritain, hélas, dans ses trois réformateurs. Vous savez qu'il y a eu une grande évolution chez Maritain, en 1926, il a quitté l'Action française, mais en 1923, il appartenait encore à ces milieux d'extrême droite, et il était d'usage, il était même impérieux, dans la ligne de droite, d'accuser Jean-Jacques Rousseau d'avoir dit que l'individu humain doit se laisser aller à toutes ses passions, ce qui est littéralement faux. Il s'est passé quelque chose dont j'ai été témoin. En 1941, en France, j'étais encore en France à ce moment-là, sous l'occupation. On en a très peu parlé, ça m'intéresse de vous le dire. C'est un frère, qui s'appelait l'abbé Razier, un frère de Lyon, qui avait publié une thèse, enfin, qui avait terminé sa thèse de doctorat, qui s'appelait « Études historiques et critiques sur l'Émile de Jean-Jacques ». Et cet abbé Razier, qui était le plus honnête homme qui soit, enfin, un homme absolument loyal, avait justement rétabli la vérité. Tavernier avait dit, mais on fait un faux procès, un procès injuste à Jean-Jacques. Il n'a jamais dit ce dont on l'accuse. Et l'abbé Razier, qui avait parfaitement compris le sens général de l'œuvre Rousseau, disait, comme je vous l'ai dit moi-même, il s'agissait pour Jean-Jacques d'essayer d'expliquer à la personne humaine ce qu'elle était dans sa substance, ce qu'elle était, ce vers quoi elle marchait, ce qu'elle devait désirer. Vous savez où ce qui est arrivé à l'abbé Razier? C'est que cette thèse, qui, pour la première fois, de la part d'un ecclésiastique, était une thèse qui rendait justice à Jean-Jacques et qui disait la vérité sur Jean-Jacques, ben elle a été interdite. L'autorité religieuse, de la hiérarchie, a obligé ce malheureux abbé Razier à retirer de la vente son ouvrage et l'a considéré comme un ouvrage coupable. Ne pas dire la vérité sur Jean-Jacques Rousseau. Oui, ça s'est passé exactement comme ça. Et puis j'ai vu aussi avec peine dans un ouvrage dont je ne sais pas la date, qui m'a l'air d'être entre les deux guerres et qui s'appelle Christus. Qui me semblait, si je me rappelle bien, une espèce d'histoire des religions, une présentation des religions diverses. La religion catholique était présentée par deux jésuites. L'un s'appelle le révérend père Brou, et l'autre s'appelle le révérend père Rousseau. Et bien, dans cette présentation de la religion catholique, il y a naturellement un paragraphe sur Jean-Jacques Rousseau, et vous y voyez ceci. Rousseau conserve les idées chrétiennes, comme dans les pays chauds, les termites conservent les meubles. Selon ces deux jésuites ont commis une petite erreur, en fait, je suis passé un bout d'oreille en ajoutant, j'ai dit, comme Jaurès, qui lui aussi était bien loin d'être un matérialiste, qui était un spiritualiste, mais comme Jaurès pensait mal du point de vue politique et social, il est important de dire que c'était un homme de mauvaise foi. Et bien Jean-Jacques Rousseau fait semblant, d'après ce que j'ai dit, de conserver l'idée chrétienne, et en réalité, il est détruit de l'intérieur. Je voudrais bien vous raconter en détail ce qui s'est passé à Genève. Lorsque Jean-Jacques a été à son tour persécuté, comme je vous le disais dans mon premier exposé. Vous vous rappelez, hein, je vous dis ça en deux mots, Jean-Jacques a été frappé à Paris par le décret du Parlement du 9 juin 62, qui le déclarait, comme on dit, de prise de corps, c'est-à-dire arrestation. Il arrive, grâce au maréchal de Luxembourg, à éviter l'arrestation, il se dirige du côté de la Suisse, enfin, du côté de Genève, et il apprend à Yverdon que les autorités genevoises elles-mêmes sont contre lui. Mais alors, ce que je voudrais vous montrer, puisqu'il n'est plus dans sa pensée religieuse, et que je viens de vous montrer que c'était une pensée religieuse sincère et d'un homme qui disait « Je suis chrétien », comment veut-il faire, les notables de Genève? Enfin, c'est ce qui paie le petit conseil, c'est-à-dire une immense majorité de banquiers. Mais pour que vous compreniez bien le savoureux de la situation, il faut que je vous lise quelques fragments de la correspondance de Voltaire. Tout le monde sait que Voltaire, à partir de 1755, si je ne me trompe pas, était venu habiter Genève. Il avait loué puis acheté une propriété qui s'appelait Saint-Jean. Vous pensez bien que Voltaire ne pouvait pas habiter dans un endroit qui s'appelait Saint-Jean, c'est irrespirable. Il avait transformé ce nom en l'Idélis. Il habitait la propriété d'Idélis. Comme Voltaire était un personnage considérable et surtout un personnage très riche, vous pensez bien qu'il était accueilli à bras ouverts par la meilleure société de Genève. Et comme Voltaire, en même temps, était quelqu'un qui a des idées très précises sur ce qu'il faut faire du point de vue religieux, on le voit dans sa correspondance, surtout avec D'Alembert, se féliciter du nouvel état d'esprit qui règne dans ce qu'il appelle toujours en ricanant la cité de Calvin. Et dire, la cité de Calvin, hein, par bonheur, elle a sérieusement changé. Alors, dans une lettre, par exemple, Voltaire rapporte avec joie un incident que voici. Je lis, c'est du Voltaire. Hein. Un pasteur de village prêchait devant quelques citoyens qui ont là, dans la banlieue de Genève, qui ont là des maisons de campagne. un sénéchal lui coupa la parole, au prêcheur, au prédicateur, au pasteur. Vous nous ennuyez, lui dit-il, allons dîner. Et il fit sortir de l'église toute l'honorable compagnie. Tantôt, ils veulent se frotter les mains, les bons esprits se multiplient. La fameuse cité de Calvin, dit Voltaire, c'est un pays rempli de vrais philosophes. Sur les 24 000 habitants de Genève, oui, à ce moment-là, extraordinaire, hein, il y avait 24 000 habitants la semaine, pas comme aujourd'hui. Sur les 24 000 habitants de Genève, il n'y a plus que quelques gredins des rues basses qui croient encore à Jésus-Christ. Le Fils, S majuscule, il y a aussi peu de crédit que la mère. La mère, c'est la Vierge que les protestants ne révèrent pas. Mais le Fils, par bonheur, dit Voltaire, il y a aussi peu de crédit que la mère. Adam Lambert, 7 juin 1758. Genève, la ville de l'argent, réalité dont elle fait faire 100 fois plus de cas que de Jésus-Christ. Je ne sais pas si Voltaire exagérait, hein. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un certain nombre de témoignages qui prouvent que dans la très belle société de Genève, du côté de M. Baudelaire, du seigneur des Anteaux, ou du côté de M. Dupont, qui était membre du conseil, qui était un banquier, qui lui était seigneur de Morillon, je crois, je vous assure que les idées voltairiennes avaient du succès. Dans la correspondance de Dupont, je vois par exemple que M. Dupont se réjouit beaucoup à la lecture de La Pucelle. Parce que vous savez, c'est que La Pucelle, c'est un ouvrage ignominieux. C'est pas moi qui parle, c'est Jaurès. Dans un discours de Jaurès à la Chambre des députés en 1808, il a parlé de Jeanne d'Arc, et il a dit, je ne me référerai certes pas à l'ouvrage ignominieux de Voltaire sur Jeanne. J'ai même pas envie de donner une taille précise sur ce que Voltaire disait contre Jeanne, tellement c'est bas et en effet ignoble. Eh bien, monsieur Dupont, le banquier Dupont, il est excellent, cette tutelle. Cela fait faire, je cite, cela fait faire de beaux éclats de rire à nos dames. Du même Dupont, qui doit être un banquier, un membre de petit conseil, et donc, comme vous allez le voir, le vocabulaire était un petit peu brutal, il dit que c'est admirable ce poème de Voltaire qui s'appelle « Désastre en Lisbonne ». Vous savez, « Désastre en Lisbonne », c'est Voltaire qui s'est déchaîné contre l'idée de la Providence, parce qu'effectivement, il y a eu un tremblement de terre à Lisbonne le 1er novembre 55, je ne sais pas, et que ce tremblement de terre, un jour de la Toussaint, avait fait une hécatombe. Et Voltaire en tirait les arguments que vous pouvez deviner en disant, si jamais il y avait une providence, le tremblement de terre ne serait pas opéré le jour même où les églises étaient prêtes, ce qui a fait quelque chose comme 30 000 morts. Eh bien, savez-vous ce qu'il dit, monsieur le banquier Dupont, à propos de ce livre de Voltaire? Ce protestant, Dupont, c'est un membre de la cité de Calvin. Et qui dit, pardonnez-moi, c'est pour moi qui parle, c'est Dupont. La providence en prendra le dessus, dit-il. Autre chose, il se réjouit énormément du temps d'une plaisanterie qu'a faite Voltaire en parlant de gens qui, en Inde, enfin, je ne sais pas si c'est vrai, Voltaire dit, il y a dans les Indes des tribus qui prennent pour Dieu le phallus. Alors il dit, au moins ça, c'est des gens qui vont au chalude. Tandis que nous autres, enfin les papistes, savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils ont fait d'une gaufre. Leur bon Dieu, ah ben je comprends que les Indiens sont un peu plus raisonnables. Alors vous voyez la pensée voltairienne et la diffusion qu'elle recevait du côté de chez M. Dupont et des autres. Alors, lorsque Jean-Jacques Rousseau a publié le contrat social, lorsqu'il menaçait, semblait-il, de revenir à Genève, lorsqu'à Genève il était dangereux parce que les rues basses seraient peut-être dites pour lui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le petit conseil de Genève qui va faire semblant, de ne s'occuper pas en vérité d'affaires politiques et sociales, mais de prendre le biais et de prendre la diversion d'une attaque prétendue que Jean-Jacques aurait menée contre le christianisme. Il est parfaitement vrai, je voulais indiquer, que par loyauté, Jean-Jacques avait dit dans la Profession de foi du vicaire savoyard, j'aurais des objections à faire au miracle. Alors, les gens du petit conseil de Genève, pour masquer leur opération politique, vont essayer de la farder à l'opération religieuse. Ils vont se tourner du côté de là, comme on disait, la vénérable compagnie des pasteurs. Ils vont demander au pasteur de Genève de marcher contre Jean-Jacques Rousseau en le dénonçant comme un ennemi du christianisme. C'est à l'honneur des pasteurs de Genève de voir qu'ils n'ont pas voulu marcher. Parce qu'ils sentaient bien ce qu'il y avait derrière, et ils s'apercevaient que c'était des singuliers, l'opération dont on les chargeait. C'était d'autant plus curieux qu'un de ces pasteurs, qui s'appelait Vernet, avait désiré faire un petit libelle, enfin un petit texte, contre Voltaire, parce que Voltaire avait parlé de l'âme atroce de Calvin. Enfin, pour vous dire, on faire bien entendu, l'âme atroce de Calvin. Alors, ce pasteur avait dit, j'ai l'intention de faire un petit libelle, il faut pouvoir indiquer que tout de même, chez Voltaire, qui est hôte de la cité de Genève, parle si curieusement de Calvin. Et bien, savez-vous que le petit conseil de Genève avait interdit à ce pasteur Vernet de dire quoi que ce soit contre M. Voltaire, parce que c'est un homme riche et protégé par la France. Alors, le petit conseil va attaquer lui-même, puisque le pasteur se dérobe, va attaquer lui-même Genève, Jean-Jacques Rousseau, va attaquer lui-même Jean-Jacques Rousseau, comme étant quelqu'un qui a porté atteinte à notre sainte réformation. Et ce qui est plus remarquable, c'est ce monsieur Dupont, dont je vous ai cité deux jolies formules sur la providence qui en pendant, etc., et sur la ficelle, qui le ravit tellement, où on voit ce monsieur Dupont écrire, décidément, on dirait que l'intérêt de la religion est ce qui touche le moins nos pasteurs. En somme, c'est l'alibi, hein, l'alibi en plein fonctionnement, le saint alibi. On pense argent et on dit Dieu. Maintenant, tout à fait autre chose. Les encyclopédistes. Je viens de vous expliquer que les bien-pensants et les possédants de Genève avaient fait semblant de ne pas croire à la sincérité religieuse de Jean-Jacques Rousseau. Il dit que c'est pas un vrai protestant, c'est pas un vrai chrétien, et c'est pour ça que nous le poursuivons. Et du côté de l'encyclopédie, on ne met pas en doute la sincérité religieuse de Rousseau. Et c'est précisément en tant que chrétien qu'il va être par eux persécuté. Comprenez bien quelle est l'affaire en cause. Et elle est très sérieuse, vous savez. Voltaire n'est pas quelqu'un qui rit. Il ricane peut-être, mais il rit pas. Il a eu un certain travail qu'il s'est assigné, un travail auquel il se donne tout entier, parce qu'il croit du reste qu'il fait bien, à savoir la destruction du christianisme. Il y a une lettre de lui à D'Alembert qui est d'une limpidité absolue sur ce point, où il dit « Pourquoi 5 ou 6 hommes de qualité qui travaillent ensemble n'arriveraient-ils pas à détruire ce que 12 facins ont construit ?» Vous avez compris, les 12 facins sont les apôtres. Les 5 ou 6 hommes de qualité qui s'entendent, eh bien, c'est précisément les encyclopédistes, c'est Voltaire lui-même, c'est Diderot, c'est Grimm, c'est D'Alembert, d'Holbach, etc. Le président Hainaut, c'est un esprit un peu sceptique, mais enfin, gentil, avait dit un jour à Voltaire en souriant, mais dites-moi tout de même, monsieur Voltaire, mais croyez pas que vous êtes capable de renverser le christianisme, d'extirper le christianisme, qui a tout de même 18 siècles derrière lui. Et Voltaire avait répondu, les yeux dans les yeux et sans sourire, mais c'est ce que nous verrons. Alors Voltaire est un homme acharné à cette tâche, il sait ce qu'il veut faire, et vous savez aussi qu'il y va par des méthodes obliques. Il a dit à son ami D'Alembert, frappez et cachez votre main. Ce qui signifie qu'il faut que l'infâme imagine que l'infâme c'est le christianisme. Pas seulement comme on le dit l'église catholique, mais tout le christianisme. Il faut que l'infâme soit détruite sans s'en apercevoir. Des coups de poignard et qu'il soit anonyme. Là j'ai envie de vous citer quand même quelque chose qui est un peu en marge, mais qui m'a tellement frappé que ça m'amuse de vous le dire. C'est que monsieur Guéhenno, qui est un ami de Jean-Jacques Rousseau, mais qui n'aime pas ce côté chrétien de Rousseau, ça le gêne, enfin, ça l'incommode un peu. Si Guéhenno dit, Voltaire ne signe pas, mais c'est ce qu'il fait contre le christianisme, Rousseau, lui, un peu lourdeau, il signe ce qu'il a écrit, il signe contre un social. Et M. Guéhenno écrit, je dirais même, ose écrire, Voltaire savait, lui, que la vérité marche à pas de colombe, et il ne considérait pas qu'elle lui appartint, il préférait l'humilité de l'anonymat, vous en pensez ce que vous. Donc c'était cette méthode que je vous ai dite, et ça marchait bien. Dans les correspondances de Voltaire, vous y voyez des affirmations comme celle-ci, il pleut des bombes dans la maison du Seigneur, c'est-à-dire qu'elle va s'écrouler, tellement qu'il y a une publication hostile, ou encore, le monde se déniaise furieusement. Pour lui, se déniaiser, ça voulait dire se retourner contre le christianisme. Donc l'opération marchait bien. Et tout à coup, voilà qu'au milieu du siècle, c'est-à-dire à partir de 1752, on voit apparaître un petit bonhomme de rien du tout. Même pas un Français, hein. C'est un Genevois qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau, qui est allé à Paris, à qui les encyclopédistes ont fait d'abord confiance, parce qu'on l'a même chargé d'un certain nombre d'articles très importants concernant la musique dans l'encyclopédie. Ce monsieur Rousseau se fait écouter, il a du talent, il a de l'audience, et il dit des choses de plus en plus inadmissibles. Là, j'ai une réponse qu'il a faite à un contradicteur de son premier discours. Il a, lui, collaborateur de l'encyclopédie, osé affirmer ceci de tous les livres qui existent. Il n'y en a qu'un qui soit nécessaire. C'est l'évangile. Pensez à quel point Voltaire devait être ravi d'entendre ça. Et il, dans les milles, au centre de les milles, il y avait la profession de foi du vicaire savoyard. Et au centre de la profession de foi du vicaire savoyard, il y avait cette phrase devenue depuis fameuse, si la vie et la mort de Socrate sur d'un homme, la vie et la mort de Jésus sur d'un Dieu. Il faut lui faire rentrer ça dans la gorge. Hein. C'est terrible qu'un homme comme Jean-Jacques, qui a de l'audience et qui a du talent, puisse se faire écouter au moment où ça marchait tellement bien la déchristianisation. Alors écoutez Voltaire, l'infâme Jean-Jacques a fait un tort effroyable à la bonne cause, et quel temps a-t-il pris pour combattre l'idée philosophique, le temps même où elle allait triompher. Alors je vous assure, hein, tout est bon contre lui. Je vous avais parlé de l'hostilité politique de Voltaire et de l'encyclopédie, mais c'est rien à côté de leur hostilité religieuse. Parce que ça les tient au ventre, vous savez, ça les tient avec une espèce de fureur noire. Alors depuis 1754, ça a commencé, je vois dans le journal de la vie Trublet, le 25 septembre 1754, une soirée qu'il a passée chez Madame Geoffrin. Madame Geoffrin, c'est un salon littéraire et philosophique. Et il dit la vie Trublet, Madame Geoffrin peint à merveille M. Rousseau, et par des détails peu importants en apparence, décisifs néanmoins pour un connaisseur, et qui prouve tout ce qu'il y a d'affectation, de fausseté
et pour trancher le mot de coquinerie dans sa singularité, son désintéressement et son paradoxe. Grimm vante le petit chef-d'œuvre de M. Diderot, portrait au vitriol du trop célèbre citoyen de Genève, qui est un misanthrope, qui est un neurasthénique, qui est un hydrophobe, lequel déverse, paraît-il, sur l'humanité un torrent d'invectives et de fiel. Mais c'est le comportement de Voltaire qu'il nous faut regarder plus près, parce que vraiment ça, c'est intéressant. Dès que Jean-Jacques avait publié La Nouvelle Héloïse, Voltaire a écrit ceci, c'est un pamphlet, il y avait en effet une lettre sur Paris, qui était sévère sur Paris, sur la corruption de Paris. C'est un libelle contre la nation qui donne à l'auteur de quoi vivre. Cela y compris la perfidie. Ça veut dire, mais qu'il a dit si, ces Français se laissent insulter chez eux. C'est pas bien qu'on va renvoyer ces gens-là qui n'est même pas français. Vous avez vu le comportement de Voltaire au moment du décret, et qu'il a agi sur les magistrats à Paris, qu'il va aussi agir sur les magistrats de Genève pour que Jean-Jacques soit incarcéré s'il ose mettre le pied dans sa ville natale. Et le jeu de Voltaire est extrêmement intéressant parce que, comme le petit conseil a décidé d'user de l'allié dont je vous ai parlé, et de prétendre que Jean-Jacques est un mauvais chrétien, Voltaire lui-même, qui Dieu sait ne peut pas passer pour chrétien, va apporter de l'eau au moulin et va dire, mais c'est vrai, ce Jean-Jacques, hein, c'est vraiment un très mauvais chrétien. Nous avons appris, par exemple, le détail que voici, un ouvrier agricole, c'est un journalier qui travaillait chez Voltaire, à Ferney. C'était un jour permis de demander au maître qui passait là, mais qu'est-ce qui se passe donc à Genève à propos de ce monsieur Rousseau? Et Voltaire avait répondu, sachant qu'il s'adressait à un pauvre type, à un journalier qui était traditionnellement chrétien, il dit, ah, oh, ce monsieur Rousseau, je comprends, il écrit des choses abominables contre la religion chrétienne. Il va encore beaucoup plus loin. Voltaire, qui est habile à faire des faux, ça ne me gêne pas du tout, va publier ce qu'il appelle le catéchisme de l'honnête homme. Anonyme, hein, catéchisme. Je me trompe du reste en disant anonyme, car c'est signé d'un certain nombre d'initiales et ces initiales sont transparentes, par monsieur Jean-Jacques Rousseau, ex-citoyen de Genève. Mais tout ça par initiale. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il a fait avec sa Voltaire? Il s'est emparé d'un certain nombre de pages de la profession de foi du vicaire savoyard. Les pages qui sont dans les salles, les pages critiques dont je vous ai parlé, j'ai dit sur les miracles. Puis, prenant ces textes authentiques de Jean-Jacques Rousseau, il les fait suivre de déclarations monstrueuses, et qui ne sont évidemment pas de Jean-Jacques Rousseau, mais qui ne fait pas fait pour tel. Par exemple, comment reconnaître un Dieu dans ce juif de la populace, Jésus-Christ, et qui fait du sang parce que la mort lui inspirait de l'effroi. Et bien ça, c'est du Voltaire attribué faussement à Jean-Jacques Rousseau. Et ce que j'ai de plus intéressant à vous dire, et je crois que la dernière fois j'avais fait une allusion à M. Horieux à ce propos, c'est le comportement de Voltaire au moment des lettricides de la montagne. Ça vaut la peine que je vous l'explique en détail. Les lettricides de la montagne, c'est Jean-Jacques qui a réfugié dans la région de Moitié et qui se défend contre ce qu'on lui a fait à Genève et qui explique pourquoi la République de Genève s'est singulièrement transfigurée. Voltaire, il avait fait un coup terrible. Voltaire était l'auteur d'un pamphlet anti-chrétien qui s'appelle Le sentiment des citoyens, et Jean-Jacques a appris par une correspondante que Voltaire mettait au compte de Jean-Jacques Rousseau, je me suis trompé en disant le sentiment des citoyens, le sermon des 50. Et Jean-Jacques avait appris par une correspondante que Voltaire mettait à son compte, lui, Jean-Jacques, ce sermon des 50, ouvrage anti-chrétien. Alors, dans ses lettres de la montagne, Jean-Jacques restitue à Voltaire ce cadeau empoisonné. La conscience de Voltaire va être affreuse. Et ça, on en parle guère, et je tiens à vous en parler. D'abord, il y a trois choses. Il y a premièrement une espèce de petit pamphlet, un libelle que Voltaire va faire répandre dans les rues de Genève pour expliquer ce que doit faire le petit conseil. Et il dit en particulier, il faut un jugement qui mette fin à l'audace de ce scélérat. C'est Voltaire, hein, qui fait dire ça au petit conseil de Genève. Nous possédons plusieurs des lettres de Voltaire écrites à des conseillers, à des membres du petit conseil. Il y en a une à Cramer, je crois, puis il y en a une à Tronchin, où Voltaire dit, le conseil aura trop de prudence et trop de fermeté pour s'amuser seulement à faire brûler un livre auquel la brûlure ne fait aucun mal. Il y a un troisième pamphlet qui s'appelle cette fois le sentiment des citoyens, où Voltaire a pris le ton d'un pasteur protestant pour dissimuler sa propre action, et où il conclut, on punit capitalement un vil séditieux. Vous avez entendu, capitalement. Ça veut dire que Voltaire se rappelle ce qui s'est passé il n'y a pas tellement longtemps dans la cité de Genève, où un homme comme Nicolas Lemaire ou un homme comme Pierre Fascio ont été arquebusés, et il espère que Jean-Jacques serait arrêté et tué. C'est ça que fait Voltaire. Bien, il faut savoir que Jean-Jacques était l'objet d'une persécution vraiment affreuse. Il faut savoir qu'il a été obligé de se réfugier auprès de Hume parce qu'il croyait que Hume l'aimait. Il s'est aperçu que Hume ne l'aimait pas et le trahissait. Il faut savoir que Jean-Jacques, je vous l'ai dit, est arrivé à un certain moment de sa vie aux frontières du traquement. Lorsque vous voyez, par exemple, dans les rues de Paris, cet homme de 64 ans, oui, qui a écrit un petit texte qui s'appelle à tout français aimant encore la justice et la vérité, et qui, tel un camelot, distribue sa petite feuille dans la rue Platrière, là où il habitait. Il l'avait tellement persécuté, les encyclopédistes, qu'il l'avait conduit aux frontières de la folie. Pourquoi l'ont-ils tellement haï? Pourquoi l'ont-ils tellement persécuté? Parce que Jean-Jacques c'est quelqu'un qui avait écrit dans l'Anneau de Lévis cette prière. C'est pas dire qu'il mettait sur les lèvres de Julie, mais qui était sa prière. Seigneur, je veux le bien que tu veux, et dont toi seul est la source. Je remets mon cœur sous ta garde, et mes désirs entre tes mains. Savez-vous que sur la profession de foi du vicaire Savoyard, dans le manuscrit qui est conservé à Genève, je crois, il y a ceci qui est dans le manuscrit. Non pas pour moi, non pas pour moi, Seigneur, mais pour ton nom. C'est un petit fragment du psautier de Genève. Savait bien, Jean-Jacques, qu'il avait fait des quantités de fautes. Et il disait, je mets les mots qui m'attirent mes livres, en compensation du mal que j'ai fait. Je vous assure que je ne perds pas les pédales, hein, que je ne suis pas en train d'en dire trop. Mais j'appelle votre attention sur cette vérité même, que Jean-Jacques a souffert persécution à cause de son christianisme. Ça me rappelle un certain mot d'évangile que je n'ai pas besoin de citer, sans citer ceux qui seront persécutés à cause de mon nom.